Chapitre 16. Le premier acte de Duras, en arrivant à Londres, fut d'aller au consulat français. Bien qu'il se répétât que son espoir était irraisonné, absurde, il eut une cruelle déception en trouvant les bureaux fermés. Obligé d'attendre au lendemain, il ne put supporter l'idée de rester plusieurs heures sans agir. Cherchant dans un guide l'adresse des rares maisons religieuses où il lui paraissait possible que Brigitte fût descendue, il monta en voiture et, jusqu'à 8 heures du soir, courut aux différents couvents avec une espérance toujours renouvelée et toujours déçue. Il était exténué en rentrant à son hôtel. Il avala, sans y penser, le dîner qu'on lui servit et passa la nuit au milieu de rêves inquiets dont Brigitte était toujours le centre. Sans cesse, il se réveillait, poursuivant l'idée qu'il avait eue en s'endormant. Elle parle l'anglais, il est donc impossible qu'elle n'ait pas su agir sagement. Rien n'est plus facile, même pour une jeune fille sans expérience. En fuyant Rudal, elle... Il s'interrompit pour réfléchir aux mots de Madame Taillanderie. À moins que son cœur ne l'ait trahi. « Moi seule la connais bien !» se répétait-il avec une angoisse qu'il ne voulait pas sonder. Quand le jour parut, Séverin chassa les idées trop noires, mais pensa que, vraisemblablement, ses recherches seraient inutiles et que Madame Taillanderie avait eu raison en lui conseillant d'attendre une lettre de Brigitte. Néanmoins, il se rendit au consulat avec l'intention de prévenir Mademoiselle Desponnets, si elle s'adressait au consul, qu'un de ses amis était à Londres. « Mademoiselle Desponnets, lui répondit-on aussitôt, mais Monsieur Martel est venu hier déposer son adresse. » Séverin réprima une exclamation de bonheur. « Monsieur Martel, dit-il, qui est Monsieur Martel ?»« Un négociant du Havre. Il est constamment à Londres pour ses affaires et nous le voyons souvent ici. Il nous a donné l'adresse de Mademoiselle Desponnets au cas où des amis de passage à Londres s'adresseraient à nous pour la voir. » « Veuillez me remettre l'adresse. Ce monsieur Martel est un homme pratique. »« Très pratique et un brave homme. » Ce dernier mot apaisa l'inquiétude de Duras, qui, déjà, se disait intérieurement « Qu'est-ce que cela veut dire? Où vais-je la rencontrer ?» Une demi-heure plus tard, il sonnait à la pension de famille et, sans l'avoir préalablement annoncé, on l'introduisit dans un petit salon où Brigitte était seule et réfléchissait tristement. Elle se leva avec une exclamation étouffée et resta debout dans une attitude humiliée qui impressionna douloureusement Duras. « Vous ? » dit-elle d'une voix à peine distincte. « Vous ? » « Moi, l'ami des bons et des mauvais jours, » répondit-il simplement. « Vous savez... »« Tout, c'est la raison qui m'amène ici. » Il la vit cacher son visage avec angoisse, puis, sans le regarder, elle dit en effleurant les mots. « Et vous ne me méprisez pas ?»« Brigitte, » dit-il en lui tendant la main, « je crois, et je n'en ai jamais douté, que vous pouvez mettre loyalement votre main dans celle d'un honnête homme. » À cet appel direct, Brigitte mit silencieusement, mais avec un élan significatif, sa main dans celle de Duras, pendant que ses yeux d'enfant le remerciaient plus éloquemment que les paroles les plus expressives. Après tant d'émotions et de fatigue, Séverin, moins maître de lui, céda à l'attendrissement qui le dominait tout entier. « Pauvre enfant, pauvre cher aimé » s'écria-t-il en attirant la jeune fille et en l'entourant de ses bras. « Vous souffrez et avez souffert. Appuyez-vous sur mon cœur qui n'a pas changé. Un jour, j'ose l'espérer, vous trouverez auprès de lui un appui définitif. » « Que dites-vous ? » balbutia Brigitte. « Ce que j'ai dit à M. Desponnets en le quittant, » répondit-il en l'éloignant doucement. Mais, tenant toujours sa main, il continua avec chaleur. « Regardez l'avenir avec confiance. Ne vous croyez ni perdu ni déchu. Vous vous êtes trompé et vous avez été trompé, c'est tout. » « Le monde pourra en juger autrement, » répondit-elle, « et cependant, vous venez à moi comme autrefois. » « Comme autrefois, » dit-il tranquillement en lui baisant la main. Elle pleurait dans un tumulte de pensées qui la faisait cruellement souffrir. Le remords, la vue nette du caractère de Séverin méconnu par elle, le souvenir de son dédain pour un amour qu'elle croyait pacifique et incapable de grand élan, tout se réunissait pour la jeter dans le trouble le plus extrême. Durand n'entendait pas profiter de cette émotion violente pour obtenir de l'espérance. Après avoir cédé à un mouvement passionné et tendre, il avait voulu adoucir le sentiment humilié qui dominait visiblement chez Brigitte. « J'ai été entraîné à vous laisser voir le fond de mon cœur, » dit-il quand il la vit plus calme. « À présent, si vous le voulez bien, nous écarterons ce sujet et déciderons ensemble le jour et l'heure de notre départ pour la France. » Elle fit un grand effort pour parler et répondit « Partons le plus tôt possible. Mais dites-moi tout ce que je ne sais pas. Comment avez-vous appris ?» En trois mots, il lui narra sa découverte en Italie. « C'est vous qui avez éclairé mon père? Parlez-moi de lui, qu'a-t-il dit ?» Durand lui fit un bref récit, passant légèrement sur les paroles de M. Déponey. « Vous atténuez, je le sais, » dit-elle, « lisez sa lettre. » Il est revenu sur cette impression du premier moment, répondit Séverin, qui dissimulait sa colère en parcourant les lignes outrageantes qu'il avait sous les yeux. Déchirez ce papier et n'y pensez plus, si ce n'est pour vous rappeler qu'au premier moment, la colère de M. Déponey était légitime. Elle ne répondit rien, mais en déchirant lentement la lettre, elle se disait qu'un père affectueux ne l'eût point écrite. « Madame Taillanderie vous attend à Paris, » lui dit Séverin, qui avait hâte de détourner le cours de ses pensées. « Elle vous emmènera aux petites buardières où vous serez dans une grande tranquillité. » « Pouvons-nous partir cet après-midi » demanda-t-elle. « Demain, si vous le voulez bien, » répondit-il avec une nuance d'embarras très légère, mais que Brigitte remarqua. « Avez-vous quelques affaires à régler? Pourriez-vous me dire où vous étiez descendu en arrivant à Londres ?» Aussitôt, l'idée qu'il voulait rencontrer Rudal frappa d'effroi la jeune fille. « M'écouterez-vous si je vous adresse une prière ?» dit-elle vivement. « Vous savez bien que ma réponse sera affirmative. »« Je ne sais. Partons aujourd'hui. Renoncez au projet de voir M. Rudal. » Il eut un mouvement d'extrême surprise, puis d'émotion pénible. Une telle clairvoyance indiquait, selon lui, que le cœur de Brigitte n'était pas libéré. « Ah, vous l'aimez toujours !» s'écria-t-il avec colère. « Je vous jure que non !» répondit-elle avec plus de fermeté qu'elle n'en avait encore montré dans leur entrevue. « Il me fait horreur, mais je ne veux pas de querelle entre vous. » « Il vous fait horreur en raisonnant, mais s'il était devant vous, quelle serait votre impression ?» Brigitte se souvint de son émotion en revoyant Rudal, émotion dont elle avait été assez honteuse pour en écarter de toutes ses forces le souvenir cuisant. « Une impression n'est rien, » dit-elle doucement en rougissant. « Tout mon être moral la repousserait. Non, je n'aime plus. Ne pensez pas à ce malheureux. Ne pas le voir pour lui cracher mon mépris à la face, impossible de vous accorder cela. Écoutez-moi, je vous en prie. Traitez-le par le dédain comme je l'ai fait moi-même. Et comment vous, si raisonnable, ne comprenez-vous pas à quoi peut aboutir une pareille rencontre ?» « Elle n'aura pas lieu, » dit-elle avec une énergie subite. Durand, agité, se demandait pourquoi la demande de Brigitte lui avait enlevé son sang-froid et sentait quelle main mise la jalousie avait encore sur lui. « Cédez, » dit-elle, « cédez ou vous porterez sans le vouloir une grave atteinte à ma réputation. Partons et laissons-le en face de lui-même. » Au mot de réputation, Durand vit tout à coup la faute que la passion avait failli lui faire commettre. « Vous avez raison, Brigitte, » dit-il froidement. « Nous partirons aujourd'hui ?»« Nous partirons aujourd'hui. » Il voulut voir M. Martel pour le remercier avec énergie et s'informer des circonstances dans lesquelles il avait rencontré Mlle Déponey, n'osant pas la questionner sur un sujet aussi pénible. Elle avait eu la bonne idée de louer une chambre. Dès le soir même, elle est tombée en prostration, m'a raconté l'ouvrière qui l'a secourue. Mais aussitôt bien, elle a fait preuve de présence d'esprit. Séverin se fit raconter tous les détails de la rencontre. « Que Neige était là pour le traiter comme il le méritait !» dit-il en parlant de Rudal. « Nous n'aurons jamais assez de gratitude pour vous et Mary Wilson. » Bah, c'était tout simple, cette jeune fille trompée est intéressante. Mais c'est une tête folle sans doute. Un cœur aimant plutôt, laissé à lui-même et aux circonstances. Une parente, trop âgée pour venir jusqu'ici, l'attend à Paris et l'emmènera avec elle. Moi, j'agis comme amie de la famille. Pourquoi ne retourne-t-elle pas chez son père? Il est encore bien irrité. Ah, je comprends cela. Je ne suis pas méchant, mais si ma fille se conduisait avec une indépendance aussi coupable, je crois que je la bâtonnerais. En auriez-vous le droit, si vous aviez commencé par la jeter vous-même au milieu du danger ? Répondit tranquillement Duras. Son père est le principal coupable, en supposant que ce mot puisse s'appliquer à un homme aussi distrait. Elle est à plaindre plus qu'à blâmer. Il mit assez de conviction dans ces derniers mots pour que M. Martel fût subitement éclairé. Le temps passera sur cette aventure et l'effacera, dit-il avec une brusquerie qui cachait une intention délicate dont Séverin lui sut un gré infini. Brigitte partit après des adieux émus à ses amis de Londres. Pendant le voyage, Duras souffrit de la sentir profondément affaissée et malheureuse. Il se tint à l'écart, comprenant que, quelle que fût sa reconnaissance, elle était devant lui dans un embarras inexprimable. Il la laissa donc à elle-même et, arrivé à Boulogne, l'installa dans un compartiment de dame seule. Cette discrétion fut un repos pour Brigitte. En reprenant, après une secousse aussi terrible, la route parcourue 7 jours auparavant, aucune conversation n'eût pu la distraire de ses pensées poignantes, et Duras agissait avec autant de discernement que de délicatesse, en lui permettant de suivre librement le courant douloureux qu'il était, tôt ou tard, impossible de lui éviter. En approchant de Paris, l'inquiétude de Brigitte redoubla, la pensée de sa première entrevue avec sa cousine l'effrayant exagérément. Mais Madame Taillanderie avait du cœur, et, de plus, elle était fortement remuée et adoucie par le caractère de Séverin, tant il est vrai que la grandeur des sentiments a sa répercussion dans l'âme des autres. Elle affecta des allures plus brusques et plus fantasques en abordant Mademoiselle Desponnets. « Vous serez la bienvenue aux petites buardières. Par exemple, nous partons demain. Tant pis si vous êtes fatiguée. Je n'ai jamais rien vu d'odieux comme ces hôtels de Paris. Mon cher, dit-elle en se tournant vers Séverin, vous m'avez envoyé dans un coupe-gorge. » « Pas tout à fait, ce me semble. »« Tout à fait, je vous dis. Ma petite, vous avez l'air de revenir de l'autre monde. Faites-moi le plaisir d'aller vous coucher. » Seule avec Duras, elle devint plus pondérée. « L'expédition s'est faite bien facilement, lui dit-elle. Quand j'ai reçu votre dépêche, je préparais la mienne pour vous envoyer l'adresse de Brigitte, dont la lettre venait de m'arriver. » Tout a été facile grâce aux braves gens rencontrés par elle. Quelle a été son attitude en vous voyant ? Demanda Madame Taillanderie après avoir écouté les explications de Séverin. Pauvre enfant, dit-il en marchant avec agitation. Pauvre enfant, sa vue m'a fait mal, si pâle et si humiliée. Que disait-elle en vous écrivant ? Vous lirez sa lettre, elle est courte, écrire sur un ton qui a produit le meilleur effet sur moi. Brigitte se met sous ma protection, en termes simples et dignes en même temps, et demande que je lui envoie une personne sûre pour la ramener en Vendée. Et vous, que lui avez-vous dit ? Tout mon cœur. Pouvais-je la laisser dans un état d'esprit, la portant à croire qu'elle était déchue ? Qu'a-t-elle répondu ? Son émotion a été extrême et j'ai changé la conversation. La voici donc sous votre sauvegarde. Je vais donc m'effacer et ne la reverrai que sur son désir. « Pourquoi cela ? » dit-elle en protestant. « Vous imaginez-vous, par hasard, qu'elle ne vous aimera pas maintenant et perdument ? Je voudrais bien voir le contraire. » « Je n'imagine rien. Je me contente de prendre le cœur humain comme il est. Brigitte ne peut être guérie du jour au lendemain. Elle est et sera encore malade. Au nom de l'honneur le moins délicat, je ne dois pas m'imposer. Plus tard, nous verrons comment agir, et vous allez me promettre de ne rien dire ni rien faire dans un sentiment différent du mien. »
« Je ferai à ma guise. »
« Non, dit-il avec fermeté, vous ferez à la mienne parce que, en y réfléchissant, vous entrerez dans mes vues. » Madame Taillanderie, habituée à mener les autres et à ne jamais être menée elle-même, s'emporta immédiatement. Mais Duras discuta pied à pied et ne lâcha prise qu'après avoir obtenu une promesse formelle de son irascible amie. « Je prendrai le rapide demain, dit-elle de mauvaise humeur. Quel pays plein de boue et de gens qui vous font marcher à l'envers de vos idées !»«
Bah !» dit Séverin, riant de cette boutade. « Mes idées deviendront les vôtres. Vous allez encore me promettre de laisser Brigitte entièrement libre. »«
Suis-je un tyran ? » dit-elle en grondant. « Vous agirez avec d'excellentes intentions, mais ce n'est pas l'effort en ce moment, c'est la tranquillité et surtout l'estime qu'on pourra lui témoigner qui conduiront Brigitte à la paix morale. »«
Bon, bon, je ne suis pas imbécile, mon cher. Partez-vous avec nous ?»«
Non, je rentrerai chez moi dans quelque temps seulement, afin de tromper le public sur mon rôle trop actif dans ces circonstances. » Il sera bien qu'on sache tout de suite dans le pays que Brigitte est avec vous.
C'est mon affaire. Vous pouvez être sûr que la trompette sera embouchée et que les gens l'entendront.